France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco. Bonjour Maurice.
Bonjour Caroline.
Qu'est-ce que vous allez nous faire à 12h25 comme chronique ?
Des algues.
Vous allez parler des algues. Ben ça tombe assez bien. Vous faites toujours les choses assez bien, Maurice Acco. Parce que nous allons essayer, dans ces 25 minutes que nous allons passer ensemble, de faire rimer cuisine végétale et plaisir maximal. En compagnie de nos deux invités, Esterelle Payani, bonjour.
Bonjour Caroline.
Journaliste et autrice de l'ouvrage La cuisine végétarienne, les algues font partie du végétal.
Mais bien sûr.
La cuisine végétarienne est un livre paru en 2015 et qui reparaît pour ses 10 ans aux éditions Flammarion dans une version enrichie, actualisée, avec une préface du chef 3 étoiles, Régis Marcon. Tiens, pourquoi Régis Marcon ?
Régis Marcon travaillait beaucoup sur les champignons et puis il avait aussi un travail important avec les écoles de son village, notamment sur les légumineuses. Il est dans sa région d'Auvergne, il a travaillé sur l'AOP de la lentille du Puy notamment. Et puis aussi sur le poids de la planèse et aussi sur d'autres légumineuses et céréales un peu oubliées dans cette zone un peu aride, pourrait-on dire.
Donc c'était tout trouvé qu'il fasse la préface de la réédition de votre ouvrage.
Exactement.
Mehdi Favry, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Merci d'être avec nous. Également, vous êtes chef de 3 restaurants végétariens à Paris, même s'ils ont tout l'air de restaurants, sauf d'être des restaurants végétariens, on y reviendra. C'est des restaurants ultra tendance, Maslow Premier, Maslow Temple. Vous êtes aussi à la tête d'un restaurant de pâtes, un peu particulière, dans le 10e arrondissement, du nom de Fellows. Esterelle, quand je dis que Mehdi Favry est à la tête de 3 restaurants végétariens à Paris, est-ce que ça veut dire que la cuisine végétarienne, en tous les cas dans les restaurants, c'est avant tout un phénomène parisien ou un phénomène de grande ville ?
Alors, le fait qu'elle soit labellisée cuisine végétarienne, certes, mais on peut manger végétarien dans plein de restaurants. Des restaurants libanais, italiens, des cuisines du monde qui sont très naturellement tournées vers le végétal. Donc c'est plus une question de labellisation et de revendication. On mange régulièrement végétarien sans même s'en rendre compte. Donc le phénomène parisien, non, il y a des cantines dans plusieurs dans les grandes villes. Et puis ça dépend vraiment des régions de France. C'est un peu plus difficile en Normandie, par exemple, une région où je suis souvent, où il y a beaucoup d'élevage, en fait, ou en Périgord. Typiquement, quand on est dans la région de Périgueux, il y a un excellent restaurant végétarien à Périgueux. Mais après, à la carte des restaurants, on n'en trouve pas tant que ça d'options végétariennes.
Mehdi Favry, c'est les premiers restaurants que vous avez ouverts récemment. Hein, le premier, c'était 2023. Comment se fait-il qu'un non-végétarien choisisse d'ouvrir des restaurants végétariens ?
Alors tout le sujet, quand on a ouvert ces restaurants avec mes deux associés Julia et Marine, c'était de se dire on veut ouvrir un restaurant mais on veut le faire autrement. Donc on veut le faire autrement pour prendre en compte des considérations environnementales et montrer à beaucoup de personnes qui pendant des années nous ont dit je peux pas acheter de bio, je peux pas faire ceci, cela, que c'est possible de faire un restaurant qui fonctionne. Et pour baisser notre impact carbone, le plus simple c'est d'enlever la viande et le poisson. Moi, je viens d'une génération où on mangeait de la viande midi et soir. Aujourd'hui, j'en mange plus qu'une à deux fois par semaine et je me porte très bien.
Enlever viande et poisson, Esterelle Payani, c'est ça la définition de la cuisine végétarienne. On ne sait pas bien encore, on s'y perd un peu entre végétarien, végétal, vegan, végétalien.
Alors, ça va être très simple. Cuisine végétarienne, pas d'animaux morts. Voilà, ça met toujours un petit froid à table, mais ainsi, on est vraiment au clair. Pas de volaille, aucun animal, aucun poisson, etc. Mais les œufs, par exemple, sont OK, les produits laitiers aussi, vu qu'ils sont issus des animaux, mais ne nécessitent pas qu'ils soient tués. Par contre, les œufs de poisson, non, puisqu'on peut les consommer qu'une fois qu'on a tué l'animal.
C'est très ancien, la cuisine végétarienne.
C'est millénaire.
Vous faites une petite histoire dans votre livre.
Alors, en fait, là encore, ça nécessite de changer notre perspective très européano-centrée. Par défaut, la cuisine était végétale. Il a fallu quand même mettre au point la cuisson et peu à peu rajouter la viande, la mastication. Vraiment, ça a été un très très long cheminement. La cuisine au départ, on va la retrouver par exemple au Japon. On a vraiment une tradition de cuisine végétale par pauvreté du sol, par aridité de l'environnement. On va avoir aussi tous les régimes du Moyen-Orient. La cuisine au départ, c'est faire à manger avec ce que l'on a autour de soi. Donc effectivement, il n'y avait pas forcément des ressources énormes en termes d'élevage, de production. Je pense qu'on ne pose pas forcément la question en ces termes. Ça ne s'appelle végétarien que très tard dans l'histoire, finalement. Le mot arrive uniquement au XIXe siècle. Avant, vous allez trouver des mots comme pythagoricien. Pour définir ceux qui refusaient de manger des animaux morts à la Grèce antique. Vraiment, le clivage entre végétal et non végétal est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut le croire.
Et cette longue histoire arrive jusqu'au 3 octobre 2025, 13-14 de France Inter.
14 grammes de viande rouge par jour. 14 grammes, c'est-à-dire un huitième de steak haché. Voilà ce qu'un collectif d'une petite centaine d'experts nous recommande de manger chaque jour pour notre santé, mais aussi pour le bien de la planète. C'est la revue The Lancet qui publie leur étude aujourd'hui, qui nous conseille aussi dans nos assiettes et par jour 30 grammes de viande blanche, idem pour le poisson, 200 grammes de légumes, 300 grammes de fruits, 210 grammes de céréales. Ce sont des recommandations qui sont assez proches de celles que ces scientifiques faisaient en 2019. À l'époque, leur rapport avait fait grand bruit. Alors depuis, les Français ont-ils changé leurs habitudes? Réponse de François Mariotti, professeur de nutrition à l'AgroParisTech.
Non, on n'assiste pas à ça. La consommation actuelle quotidienne en France, elle est autour de, alors ça dépend chez les hommes et chez les femmes, mais elle est autour de 100 grammes de viande rouge par jour. Et dans les recommandations, là, on est autour de 15 grammes, avec un maximum, disons, à 30 grammes. Il y a une sorte de végétalisation de l'alimentation, mais qui consiste surtout à réduire un petit peu la viande rouge, pas tellement à réduire la viande totale, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de bascule vers la volaille, finalement. Donc, il n'y a pas beaucoup de réduction de la consommation de viande, il n'y a pas beaucoup d'augmentation de la consommation des produits végétaux qui sont bons pour la santé, comme les légumineuses, les produits céréaliers complets, les fruits et les légumes. Donc, il n'y a pas de mouvement qui va dans ce sens depuis la dernière publication du rapport. C'est pas très étonnant, les profils alimentaires évoluent lentement dans nos sociétés.
Alors, entre la première édition de votre ouvrage sur la cuisine végétarienne d'Esther Elpayani en 2015 et 2025, les Français ont-ils changé leurs habitudes? Est-ce que vous avez vu une évolution, vous?
On trouve beaucoup plus d'options végétariennes et on a moins de mal à dire qu'on mange végétarien de temps à autre par différence à être végétarien. Être végétarien 7 jours sur 7 ou manger végétarien régulièrement, au moins un repas par jour, prendre en compte une dynamique environnementale, comme le soulevait Mehdi Favry. Pour moi, il y a une prise en compte naturelle, une végétalisation naturelle à laquelle le changement climatique nous incite et nous oblige. On l'observe aussi beaucoup auprès des populations jeunes, je pense dans les Crous, par exemple, où on propose des repas végétariens et où on voit une prise en compte de cela par les personnes les moins de 25 ans, en fait.
Et c'est exactement la population, vous avez tous les âges, mais quand même, Mehdi Favry, une population très jeune qui viennent à Maslow, Maslow Temple, Maslow Premier et Fellows, avec des queues. Il y a un succès phénoménal hein, en 2 ans de vos restaurants, c'est aussi ça qui est intéressant de voir.
Oui, ce qui est intéressant, c'est en fait qui déclenche la venue dans le restaurant. Donc comme vous le dites très bien, ça va être des gens plutôt de 20, 25, 30 ans, mais qui... pour une fois, ont des lieux où ils peuvent emmener sans complexer leurs grands-parents, leurs beaux-pères. Donc en fait, on a vraiment un mix finalement de d'âge et de population qui est assez intéressant. Et c'est des restaurants de grand volume. Donc si je vous prends Maslow Premier, c'est 18 000 clients par mois. Donc c'est vraiment beaucoup de monde. Et on a sondé ces personnes-là et on a à peu près à 10-20% de végétariens. Donc en fait, c'est assez peu et c'était tout le sujet de dire que...
C'est pour tout le monde, c'est pas pour les végétariens.
Voilà, 100% des gens doivent manger moins de viande et de poisson. Voilà, quelles sont les options?
Et ça marche. Et vous l'avez vu aussi, Esther Elpayani, vous avez vu constater la différence de réception entre la première édition de votre livre et cette deuxième édition parue au printemps 2025.
Oui, alors quand l'encyclopédie de la cuisine végétarienne est sortie, j'avais contacté des chefs pour avoir des recettes dans une optique d'endossement et plusieurs ont refusé en disant mais enfin, quelle idée, la cuisine française c'est pas ça, pourquoi ça vous intéresse? Le discours a vraiment changé. Et puis, il y a ce préjugé de « c'est d'abord végétarien et ensuite bon ». Alors que, non, la cuisine, si c'est bon, c'est bon pour tout le monde. Et il y a aussi eu le passage à l'obsession légumière, de penser que la cuisine végétale, ça n'allait être que des légumes dans l'assiette. Ce côté, quand on demandait un plat végétarien dans un resto, où on vous mettait toutes les garnitures avec un peu de salade. Non, les céréales et légumineuses, ça nourrit. Il y avait aussi cette idée très santé. Ça, c'est lié à l'histoire de la cuisine végétarienne en France, dans les années 70, le côté macrobiotique, avec les assiettes composées, ou qui sont délicieuses, mais qui sont une approche visuelle de la cuisine un peu éloignée de la dimension festive traditionnelle de la cuisine, de la cuisine française. Donc on avait vraiment un problème de code et de plaisir à se retrouver autour de la table.
Et puisqu'on parle de l'évolution du regard, de la réception même dans la société de cette cuisine végétarienne, il y a eu une sorte de coup de tonnerre à l'été 2025 quand nous avons appris qu'un grand chef, 3 étoiles, du nom d'Alain Passard, avait annoncé qu'il allait devenir complètement végétalien. Écoutez.
Ça a été d'abord une idée il y a quelques années. Hein. Bien sûr que ça me tournait autour depuis un moment. Et il y a un an, c'est devenu un projet. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Les choses se sont passées dans la douceur, avec mes assistants. On n'en parlait pas, mais on savait que ça existait. Et on n'a pas fait les choses d'une manière brutale. Sans rien leur dire, j'ai commencé un petit peu à réduire mes commandes de beurre, de crème, d'œufs, de lait. Je renonce pas au beurre. Le beurre, je l'ai mis dans l'armoire à trophées. C'est une œuvre d'art. Pour moi, c'était devenu trop facile d'avoir sur la table de travail la motte de beurre et le seau de crème. Et à un moment, je me suis dit, je vais l'enlever et ma sauce sera très bonne. Très souvent, quand mes clients viennent me voir en cuisine, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais vous savez, on découvre en même temps que vous. Cette sauce, je l'ai créée là, comme ça, au fourneau, en travaillant avec des réductions de légumes, en apportant la chlorophylle du légume, et on parvient à avoir des saveurs, mais bouleversantes, des textures bouleversantes, des brillances, des luisances, comme si on avait mis un morceau de beurre dans la sauce, quoi.
Bon, je sais pas si le chef Alain Passard a réduit aussi les coûts, parce que quand on transforme sa cuisine en cuisine végane, parce que là, c'est pas lui qui est devenu végétalien, c'est vraiment les recettes qu'il fait dans son restaurant, eh bien, on doit diminuer les coûts. C'est justement ce que vous faites aussi en rendant Medifabri vos restaurants accessibles. En tous les cas, c'est un souci pour vous.
Exactement, oui. Je pense que le changement, il vient pas d'une approche top-down, c'est-à-dire de se dire on va faire des restaurants gastronomiques végétariens, vegan, etc. Je pense que ça passe par toucher un maximum de personnes et pour ça, je pense qu'il faut des restaurants abordables et c'est le sujet chez Maslow. On essaye vraiment d'avoir des prix accessibles et d'être le plus honnête et transparent avec ce qu'on propose.
Esther Elpayani, ça vous fait sourire?
Ah ben, qui n'aime pas un bon falafel? La preuve de c'est végétarien, c'est excellent, c'est même végétalien. Et il n'y a pas besoin de plus pour se régaler. La cuisine végétarienne, au départ, c'est une cuisine, je mets des guillemets, de pauvres, une cuisine populaire, puisque la viande, c'était cher, on la mettait peu dans les assiettes.
La viande et le poisson sont très chers.
Condimentaires. Dire une pie saladière, c'est beaucoup d'oignons, et on met un tout petit peu d'anchois pour faire condiment, pour donner du goût, ou dans la soupe aux choux, on mettait du chou, des légumes, des céréales, et un petit peu de lard pour parfumer. Donc, on est bien loin des proportions qu'on connaît actuellement de viande et de légumes dans les assiettes.
Mais ce qui est intéressant quand on entend parler le chef Alain Passard, c'est aussi à quel point il dit que même si on enlève la crème et le beurre, on a de la texture, de la brillance, on reste dans un côté très gourmand. Et c'est aussi ce que vous faites, Medifabri, avec vos restaurants, parce que c'est complètement à l'opposé de cette idée qu'on a tous, hein, l'idée reçue que la cuisine végétarienne, c'est la cuisine très saine, restrictive, austère, un peu punitive, fade. Vous, vous faites une cuisine ultra gourmande, très régressive. Comment faites-vous ça?
Tout le sujet d'aborder cette cuisine-là, on ne voulait pas l'aborder. Moi, je ne voulais pas l'aborder. Je pense que ça a été mal abordé pendant des années sur le prisme santé, qui a un intérêt, hein, mais qui n'est pas l'intérêt. Enfin, quand on vient au restaurant, on n'y vient pas pour un régime ou autre chose. Donc tout le sujet, c'était de remettre de la gourmandise et de se dire, en fait, comment, comme Estherelle l'a très bien dit, pendant longtemps, en fait, la cuisine, le plat végétarien, il était abordé sous le prisme de la garniture. Donc, des risottos végétariens, on en a vu des milliers.
Des avec salades, parfois du bouillon de poulet.
Hein. Voilà,
avec parfois du poulet.
Mais tout le sujet, c'est de dire, en fait, j'applique les mêmes techniques que j'appliquerais à une pièce de viande ou de poisson, mais je vais l'appliquer à une légumineuse, à une céréale ou à un légume. Et après, moi, j'ai mes petites astuces, j'ai mes chevaux de Troie, quand on a des légumes qui sont un peu mal aimés, qui sont friture, pain, donc feuilletage, pâte, et fromage. Voilà.
Oui, parce que ça, on a encore le droit. On va plonger dans vos assiettes, hein, parce qu'on a quand même envie. En plus, vous avez apporté des choses à manger. Donc, on va goûter, on va faire goûter ça au chef Maurice Acco, qui vous écoute religieusement.
Voilà, pour goûter.
12h15 sur France Culture, vous écoutez les bonnes choses.
Hey, goûtez-moi ce steak végétal. Vous ne pourrez plus vous en passer.
Mmh. Alors ?
C'est top ! Merci.
Alors, comment faire pour se régaler sans viande et sans poisson? Attention, je rappelle quand même que dans un avis publié en mars 2025, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation s'est intéressée à la fois aux bénéfices et aux risques pour la santé du régime végétarien, en précisant bien que les personnes qui suivent un régime végétarien ont moins de risques de développer certaines maladies, mais parfois peuvent souffrir de carences. Donc, il y a un certain nombre de règles à respecter. Par exemple, il faut manger des protéines, donc des légumineuses, et les œufs sont très très bons également. Estherelle Payani. Donc, comment se régaler sans viande? Vous, par exemple, vous avez l'habitude de faire plusieurs versions d'un même plat avec un régime de viande, et puis, par exemple, des boulettes, et puis vous faites la même chose sans viande. Et en général, le résultat, il est assez concluant, c'est que les personnes que vous avez invitées à votre table se régalent autant sans viande.
Disons que on peut faire il y a un effet déclaratif de dire on va manger végétarien, les gens se méfient, alors que la preuve par le goût, c'est toujours le plus efficace. Vous servez un menu 100% végétal sans le déclarer, sauf au dessert, en sortant des meringues faites avec de l'eau de pois chiche, par exemple, de l'aquafaba, et hop, d'un coup, les gens peuvent plus vous dire c'est pas bon parce que c'est végétarien. Et puis, il y a aussi une logique d'acceptation, de glissement, comme vous dites, familial, avant d'arriver directement à des boulettes de tofu, qui sont délicieuses, par exemple, ou des boulettes de lentilles.
Qui peuvent être délicieuses, hein.
Oui, ça nécessite aussi des nouvelles techniques. Comme le disait Mehdi, il a des chevaux de Troie. Il y a aussi, dans la cuisine végétarienne, tout l'intérêt de découvrir de nouvelles techniques de réduction, d'émulsion, pour donner du goût à ces légumes-là. Ce qu'on fait d'habitude avec des os de viande, on peut tout à fait le faire avec des champignons, par exemple, pour les bouillons. Donc, il y a une transposition, une mine de créativité.
Oui, c'est une créativité sans fin. Ça, vous le constatez vous-même, Mehdi Fabry, dans votre cuisine. Ça permet de cuisiner végétarien, ça permet une créativité sans fin.
Oui, en tant que cuisinier, en fait, une fois qu'on maîtrise les cuissons des viandes, après, tout le travail se fait sur les sauces et les assaisonnements. Plus de créativité, tandis qu'un légume, le panel, que ce soit le panel de couleur, le panel de texture, le panel de créativité, est assez infini. Donc ça permet de se surprendre aussi, même en tant que client, en se disant « Ok, je vais essayer de faire réduire du jus de carotte. Oh super, j'ai une super glace que je vais utiliser pour laquer un autre légume. » C'est assez intéressant.
Mais ça, Michel Guérard le faisait déjà.
Déjà, mais oui, et ça demande... Moi, j'ai trouvé un super livre dans une brocante qui date des années 40, où en fait c'est une mine de recettes végétariennes, donc ça demande aussi de revenir au fondement de beaucoup de cuisines. C'est assez récent en fait que le régime de la majorité de la population soit carné. Pendant longtemps,
c'est ce que disait
ça coûtait trop cher,
absolument.
Comme Estherelle le disait.
Et alors vous, par exemple, Mehdi Fabry, vous travaillez les légumes comme on travaille la viande. Vous proposez un chou-fleur comme un poulet frit coréen, ça veut dire quoi ?
Exactement, simplement, c'est des sommités de chou-fleur, et on va leur appliquer les mêmes techniques qu'on ferait pour avoir un poulet frit coréen. Donc, on le passe dans une pâte, un batteur, une pâte à tempura, on les fait frire une première fois, à côté de ça, on fait une belle sauce aigre douce, marquée, pimentée, et ensuite on les refrit une deuxième fois, et on les passe dans cette glace, un peu de coriandre, un quartier de citron, c'est facile, et ça, les gens qui aiment pas le chou-fleur en mangent, c'est une de nos top ventes, les enfants en mangent, donc c'est fantastique.
Et il y a des techniques à apprendre, d'ailleurs, Estherelle Payani, dès les premières pages de votre cuisine végétarienne, vous nous apprenez un certain nombre de techniques, par exemple, comment préparer un steak. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde apprécie les mots steak végétal, steak de chou-fleur, enfin, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres mots, mais un steak de chou-fleur, en l'occurrence.
Là encore, on est sur des imagines culinaire. Alors, on peut dire galette, on peut dire... Vous vous souvenez, le mot fromage, par exemple. Bah, au départ, c'est formage, ce qui donne la forme. Donc, dans les livres végétariens des années 70, on parle de fromage de soja, pour parler de tofu. Donc, c'est vrai qu'on a tout un imaginaire à créer et tous les mots qui vont avec ce style de cuisine.
Et c'est surtout... les sauces qui sont importantes, parce que il faut quand même de l'accompagnement, sinon c'est sec. Alors là, je me tourne vers Mehdi Favri, parce que vous travaillez énormément les sauces quand même. L'accompagnement, il reste important. Je pense à ces potatoes churros avec une crème de luxe, qui est une sorte de madeleine. Vous allez nous dire pourquoi, Mehdi Favri. Mais alors là, on est vraiment dans le creamy. C'est très crémeux, c'est très régressif encore, mais la sauce, elle est importante. Sinon, quand même, c'est un peu sec.
Oui, mais la sauce est importante dans toute la cuisine française,
c'est vrai.
J'ai envie de dire. Donc fatalement, oui, c'est un fil conducteur, c'est ce qui vient lier nos recettes. Et là, vous parliez du potato churros avec la sauce creamy de luxe. C'est un de mes plaisirs coupables, cette sauce qu'on retrouve dans une grande enseigne fast-food. La sauce creamy de luxe qu'on a essayé de reproduire sans mauvais produit et d'une façon ultra saine. Et c'est un plat qui plaît beaucoup. Mais oui, on essaie vraiment de décliner toutes les sauces possibles. On fait un jus réduit comme on ferait un jus de viande, mais qu'avec une base de parure de légumes qu'on vient faire rôtir, ensuite qu'on vient faire déglacer au vin rouge, mijoter longuement, un peu d'algues, ce qui permet d'ajouter de la complexité et de l'umami.
Petit clin d'œil à Maurice, voilà. À Pau, qui nous parlera des algues dans quelques minutes.
Donc à la fin, on a un jus réduit aussi intéressant qu'un jus de viande.
Vous nous donnerez la recette, j'espère, des potatoes churros avec la crème de luxe pour le site internet.
Avec plaisir, c'est très facile.
Ah bon, super. Et alors vous, Estherelle, d'ailleurs vous êtes venue avec votre madeleine à vous, c'est les panis. Vous êtes originaire de Marseille, non?
Et oui, tout à fait.
C'est quoi les panis?
Je suis provençale. C'est simplement des frites à base de farine de pois chiche. Si vous connaissez la polenta, qui souvent parle un peu plus, qui est à base de farine de maïs, c'est le snack qu'on mange à l'Estac, donc qui est juste à un quartier de Marseille, qu'on peut manger salé ou sucré. D'habitude, c'est coupé en tranches. Puis c'est frit, on les mange dans un cornet au bord de la plage à n'importe quelle heure.
Vous les avez apportés d'ailleurs, les fêtes maison?
Oui, moi j'en fais régulièrement parce que c'est extrêmement simple à faire. C'est juste de la farine de pois chiche, de l'eau, et puis on fait cuire jusqu'à ce que ce soit pris. On verse, il faut attendre, et on découpe et on fait frire.
Et on goûte, par exemple, Mehdi Favri et Maurice Sacco, vous goûteriez les panis? Vous avez apporté une sauce, tiens, je
parlais
des sauces.
Oui, alors ça va toujours avec un petit condiment, en effet. Mais la cuisine végétale, c'est comme la cuisine traditionnelle. Il nous faut une bonne cuisson et un bon assaisonnement. On revient toujours à la base. Là, c'est un chutney de tomates vertes, puisque c'est la saison où on arrache les plants. Là, c'est fini, elles ne vont plus mûrir. Ben, il ne faut surtout pas les jeter, on va en profiter. Avec un petit chutney tomates vertes, vinaigre de cidre, et puis coriandre, graines de coriandre du jardin aussi.
Alors tout ça, ce sera évidemment sur le... Parce que vous nous l'avez offert, donc
pour le local.
Pour la page internet de l'émission.
On en prendrait bien un cornet, nous.
Il en reste.
On trouve aussi le curry, pendant que vous mâchez, le curry de pois chiche au chou-fleur, patate douce et lait de coco, le mac and cheese au chou-fleur, la pichade mentonaise, la bouillabaisse borgne. Comment on fait une bouillabaisse sans poisson, Estherelle?
Ça, c'est la seule recette que j'ai héritée de ma mère, quand même, qui cuisine peu. Des pommes de terre dans un bouillon bien corsé en lamelles, un bouillon avec du safran, de la tomate, beaucoup de fenouil. On les fait pocher et puis après, dans le liquide, on va faire pocher des œufs, un peu comme on fait les œufs en meurette dans le bourguignon. Et on va servir cette salade de pommes de terre tiède avec l'œuf coulant par-dessus. C'était le plat des fins de mois, quand on n'avait plus de poisson, plus rien, à part tout ce qu'il y avait dans le placard. Et encore, tout tient dans l'assaisonnement.
J'ai cru que vous alliez vous resservir, Mehdi Favri, mais là, non, parce que je voulais vous donner la parole, justement, sur ces panis qui sont à côté d'un autre plat, mais là, cette fois, c'est vous qui l'avez fait, cette recette. Une recette de sucré, parce qu'il n'y a pas que le salé aussi, hein, dans la cuisine végétarienne, il y a du sucré. Vous proposez des profiteroles fraises piment, vous proposez du pain perdu tatin, par exemple. Et là, vous nous avez fait un gâteau au chocolat.
Oui, là, je vous ai apporté une tarte choco-zatar. Et donc la typicité de cette tarte, c'est qu'elle est 100% végane. Donc en fait, même le lait dedans est végétal. Il n'y a aucun produit issu d'animaux. Et je trouvais ça intéressant de vous faire découvrir ça.
Eh ben, on va laisser Estherelle goûter ce gâteau au chocolat. pas Maury, parce que Maury, bientôt vous allez prendre la parole. Il faudra goûter après, en effet. Vous avez ouvert, Mehdi, un brunch désormais le dimanche, donc on mélange du salé et du sucré à Maslow. Donc j'invite évidemment tous les auditeurs, les auditrices parisiens et non parisiens à venir faire la queue pour vos restaurants. Il est 12h25, c'est l'heure de retrouver la chronique de Maury. Le dialogue des cuisines Maury Sacco, aujourd'hui donc, les algues.
Oui, je voulais parler des algues, qui est un produit que j'utilise énormément dans mon restaurant et qui est un produit aussi qui est un grand ami de la cuisine végétarienne. Elles ont tout l'ingrédient miracle. Les algues, elles sont bénéfiques pour notre corps et la planète, avant et après leur cueillette. Pour la planète en premier lieu, car il faut savoir que les algues produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons grâce à la photosynthèse. Elles servent aussi de nourriture et de refuge pour la faune aquatique. Pour notre corps, car ce sont des véritables bombes nutritionnelles. Par exemple, le nori contient 30% de protéines de plus que la viande, ou 10 fois plus de calcium que le lait. La laitue de mer est 8 fois plus riche en vitamine C que l'orange, ou encore le kombu breton qui contient 3 fois plus de fer que le foie de veau. Si bien qu'il est inutile d'en consommer une grande quantité en une seule fois pour bénéficier de ses apports, car notre corps serait incapable d'assimiler un si grand apport nutritionnel d'un coup. D'autant qu'il ne faut pas abuser de l'iode. On ne peut pas tricher avec les algues, donc on ne peut pas hacker le système. Seule une consommation régulière et modérée vous assurera les bienfaits sur le long terme. Bien entendu, toutes les espèces d'algues ne sont pas comestibles. On peut distinguer les algues comestibles en 4 grandes catégories. Les micro-algues, comme la spiruline, les algues vertes, comme la laitue de mer, rouges, comme le nori ou la dulse, et brunes, comme le wakame ou le kombu. Mais parlons plutôt de leur intérêt gustatif. Le wakame a un goût très doux, torréfié et ressortira même des notes de crustacés. Le kombu, lui, aura des notes salines, et toasté goûtera le caramel et la viande. La dulse, une fois frite, a même un goût de bacon. Quant au haricot de mer, il aura un goût sucré, parfois même fumé. Les algues se consomment principalement crues ou en infusion. Quand on les utilise fraîches, il est important de les dessaler en les rinçant avant usage. Bien qu'on retrouve des traces de consommation d'algues jusqu'à des dizaines de milliers d'années avant Jésus-Christ, celle-ci est plutôt récente en Europe, alors que c'est un ingrédient du quotidien en Asie, plus particulièrement en Chine, Corée et au Japon. Au Japon, c'est littéralement l'ingrédient de base de la cuisine, car elle renferme une grande quantité de glutamate, responsable de la 6e saveur indispensable de la gastronomie japonaise, l'umami. On en retrouve dans 3/4 des recettes. Comme je disais juste avant, seule une consommation régulière vous sera bénéfique. Je vous partage donc une recette que vous pourrez utiliser de plein de manières différentes. C'est un gomasho aux algues. Le gomasho est un mélange de sel et de sésame broyé ensemble. Pour notre recette, nous allons y ajouter des algues séchées. Pour une pincée de fleurs de sel, ajoutez 2 pincées de sésame et 2 pincées d'algues séchées selon votre choix. Puis les pilez au mortier. Par cette action, vous allez faire ressortir l'huile de sésame qui va capter le goût des algues. Ce mélange vous fera un super assaisonnement à saupoudrer, par exemple, sur un bol de riz, une purée ou une salade. C'est vraiment libre et vous allez bien vous amuser avec ce produit. Pour trouver les algues, c'est super simple. Il vous suffit d'aller dans un supermarché bio et vous en trouverez pour toutes les bourses et toutes les envies.
Et ben voilà une recette supplémentaire que nous mettrons évidemment sur notre page internet et en particulier sur la vôtre pour le dialogue des cuisines. Merci beaucoup Maury Sacco. Alors ce gâteau au chocolat vegan, Esther Alpayani ?
Délicieux, avec une pâte croustillante. J'espère qu'on a la recette aussi.
Ouais, ben je sais pas, on va lui demander. On va peut-être pas mettre 25 recettes non plus, mais il faut peut-être aller goûter. Les restaurants Maslow et Fellows, c'est à Paris avec 3 adresses. Et vous faites évidemment de la pédagogie clandestine, hein, Mehdi Favry. On est venu, on a économisé du carbone, on a bien mangé, on est content quand on repart. Votre livre, Esther Alpayani, La cuisine végétarienne pour accompagner tout ça, technique et recettes, un gros livre chez Flammarion. Un grand merci à tous les deux. Merci à vous, Maury Sacco, comme chaque semaine. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Cette émission a été pensée et préparée comme chaque semaine avec l'aide de Léa Varin, réalisé par Jean-Christophe Francis. Aujourd'hui, à la mise en onde, c'était Grégory Wallon. Nous vous souhaitons une excellente journée et gourmande à l'écoute de France Culture.